En 1830, la jeune Belgique a choisi comme emblème de son indépendance le lion, symbole de courage, de puissance, de force et de liberté, qui était représenté depuis le Moyen-Âge sur tous les blasons des provinces belges. Dans ce podcast, nous ne vous parlerons pas des lions, mais bien des lionnes, ces femmes belges inspirantes qui ont fait par leur talent avancer notre petit royaume d'hier à aujourd'hui.
La lionne allie vitesse et puissance. Dans la savane, elle est reine en son royaume.
Bonjour, c'est Karine Claire. Vous écoutez Les Lionnes, un podcast sur les femmes qui ont fait ou qui font bouger la Belgique. Aujourd'hui, nous allons vous parler des femmes et du sport en Belgique avec la footballeuse Aline Zeller et la réalisatrice Anne-Françoise Leleu.
Monsieur Dan ?
Tu vous dois de l'argent ?
Non, monsieur.
Je connais votre mère.
J'ai pensé que ça vous intéresserait d'être mon entraîneur.
Je prends pas les filles.
Ceux qui m'ont vu combattre disent que je suis une dure.
Petite, être dure, ça suffit pas.
Toujours me protéger quoi qu'il arrive, bien.
Trouve-toi un mari, Margaret. Quand ils apprennent ce que tu fais, les gens rigolent. Ils se foutent de toi.
Si je m'occupe de toi...
Je vous jure que je bosserai si dur.
Tu poses pas de questions. Et de mon côté, j'essaierai d'oublier que t'es une fille.
Aline Zeller, Anne-Françoise Leleu, rebonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Oui, bienvenue autour de la table pour la deuxième partie de ce podcast sur le sport au féminin en Belgique. Alors après avoir parlé dans la première partie de ce qui fait une sportive, de l'histoire du sport au féminin et des premières sportives belges, du sexisme dans le sport et de l'importance des modèles et de l'entourage, nous allons aborder aujourd'hui les fonctions d'entraîneuse sportive, la question des formations des femmes dans le sport, de la façon de traiter l'image de la sportive dans les médias et de la transmission. Bref, aujourd'hui encore, nous allons parler de sport. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Kallipatera ? Donc elle est grecque, c'est une grecque de l'Antiquité. Elle vient d'une famille de sportifs réputés dans la Grèce antique. Et un de ses fils doit participer aux Jeux d'Olympie. Alors son mari vient de mourir et elle décide d'aller au stade avec son fils. Enfin, elle ne peut pas le laisser seul. Mais comme elle est mariée, elle ne peut pas normalement aller au stade parce que le stade était interdit aux femmes mariées. Donc elle se déguise. Et elle va avec son fils, mais bon, sa supercherie est découverte. Et du coup, normalement, elle doit être condamnée à être jetée de la falaise, comme la loi le prévoit. Bon, heureusement, comme elle est issue d'une famille de très très grands sportifs, elle va échapper à la punition. Alors, ce qui est très drôle dans cette histoire, c'est que suite à cette aventure, les entraîneurs vont devoir se présenter nus comme des vers avant les compétitions pour être sûr qu'ils ne soient pas des femmes déguisées. Et pourquoi je parle de Kallipatera ? Parce que, d'une certaine manière, c'est un petit peu la première entraîneuse féminine. Aline, quand êtes-vous devenue entraîneuse ?
Mais donc, quand j'ai fait mon régendin en éducation physique à 18 ans, j'étais déjà un tout petit peu entraîneuse chez les jeunes, donc les U6 et les U7, pendant mon régendin. Et puis après, donc, en 2020, j'ai été entraîneuse directement au PSV Eindhoven, où j'avais terminé ma carrière. Donc j'ai reçu là le job d'entraîneur. Il faut savoir que quand t'es belge et que tu vas en Hollande, c'est que t'es vraiment quelqu'un de bien pour pouvoir recevoir un job comme ça, parce que un Hollandais qui considère un Belge un peu, j'étais un peu la Guéretz du foot féminin là-bas, donc c'est un beau belle marque de confiance. Faut aussi savoir que c'était dans une autre langue, donc j'en ai pas encore parlé jusqu'ici, mais moi je suis francophone de souche et j'ai appris le néerlandais par le football, donc pas par l'école, donc vraiment sur le tas. Et donc là, ben, le néerlandais ou le hollandais, c'est différent. Donc, il faut savoir aussi prendre des piques hollandaises. Tu vois, on n'a pas les mêmes expressions. Donc, on a assez rigolé. Et dans mon coaching, en tant que joueuse, le plus important, c'est faire passer le message. Et voilà, je suis un coach qui a appris en honte, de par ma dernière année, d'être très interactif. Donc, de mettre vraiment les joueurs face aux problèmes et de trouver les solutions, mais de beaucoup dialoguer. Et je pense que par rapport, à l'épisode de Kallipatera, c'est important d'avoir dans le coaching ou dans ton entourage une gente masculine, que ce soit un papa ou qu'un couple de femmes et un tonton ou un cousin. Mais là, les hommes sont un plus. Je pense qu'il faut un équilibre. Moi, je ne suis pas 200% féministe parce qu'il faut des deux. Il faut trouver un équilibre. Donc, on a besoin des hommes et des femmes pour arriver à quelque chose.
Ces deux joueuses sont de grands espoirs. Tout ce qu'il nous faut, c'est un club. Pour passer de petit génie à joueuse pro.
Vous dites, on a les moins bons créneaux dans les gymnases, par exemple.
On a les moins bons créneaux dans les gymnases, avant les matières d'équipement, on donne les derniers magnons.
La gymnastique féminine, par exemple, qui est une discipline quand même très féminine, parce qu'il y a beaucoup moins d'hommes qui pratiquent la gymnastique artistique masculine.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Au moment où je signe mon premier contrat professionnel, j'ai 20 ans, et je me dis, ça y est, j'ai accompli tous mes rêves. C'est-à-dire, je suis en équipe de France, je suis joueuse professionnelle de football. Ça y est, le plus dur est derrière moi. Et en fait, je m'aperçois que le plus dur commence, quoi. On avait des quarts de terrain à la mi-tombée, on avait des équipements toujours trop grands, donc c'est les chaussettes en taille 45-48 qu'on vous file parce qu'il reste que ça chez les garçons. Tellement de choses, c'est les vestiaires insalubres de 9 mètres carrés, alors qu'on s'entraîne autant que les garçons. Et on en fait même deux fois plus parce qu'on a tout un boulot à côté, parce qu'on est payé 400 balles par mois. 400 balles brutes.
Alors, qu'en est-il des formations des femmes dans le sport? Est-ce que les conditions d'entraînement ici en Belgique pour les filles sont les mêmes que pour les garçons?
On va dire que moi je parle toujours récréatif, oui. Maintenant tu peux rentrer dans un club à 6 ans, tu vas avoir un coach aussi qui a un brevet, tu vas avoir accès à des vestiaires. Moi à l'époque je m'habillais dans le vestiaire de l'arbitre quand j'ai commencé à grandir, ou alors j'étais appelée à mascotte, donc il y avait que deux vestiaires, donc une semaine sur deux j'avais droit à la douche, et mes copains attendaient dehors sous la pluie et on changeait, donc c'était vraiment voilà. C'est
bon, oui, parce qu'il y a seulement des douches pour les garçons en fait.
Oui. Ouais. Bah oui, mais maintenant les infrastructures font que les clubs ont des licences, donc doivent développer des infrastructures qui sont aussi ouvertes aux filles et aux garçons. Donc on voit que les mentalités
changent. Ça change, ouais.
Mais de nouveau, grâce aux politiques, grâce aux papiers et grâce aux décrets et aux arrêtés. Mais la formation en elle-même, la semaine passée, j'entendais Van Azenbroek, c'est un coach masculin de Pro League, qui dit « Oui, les filles doivent devenir plus athlétiques quand vous voyez les joueuses de Lyon qui sont en finale de la Ligue des Champions ». C'est une remarque qui n'est pas fondée, qui n'est pas constructive. On doit devenir plus athlétique. Et derrière, tu ne donnes pas dans ton discours les clés, quoi. C'est quoi? Ben, donc, tu m'appelles et tu me demandes. Hein. Je dis, on en a marre de s'entraîner toujours quand les garçons finissent de quitter le terrain à 19h. Et de Anderlecht, on s'entraîne même à 20h. Donc, ça veut dire 21h55, l'entraînement est fini. Tu dois partir parce que l'alarme va s'enclencher à 22h et tu n'as pas le code. Donc
et quoi, il n'y a pas une tournante? Vous êtes toujours obligé de passer après?
Toujours le soir, ouais. Donc, tant qu'on ne peut pas s'entraîner en journée, donc je dis, on s'entraîne toujours dans le rouge. Donc, après notre journée, quand on est un peu au bout de son énergie, tu ne peux pas prester quand tu es en fin de journée. Donc, les hommes s'entraînent le matin, ils ont repos, ils s'entraînent une fois l'après-midi. Ça, c'est les top athlètes. Donc, si tu veux avoir des résultats au niveau de ton équipe nationale ou de ta Super League, tu dois concilier des entraînements en journée, le plus tôt possible dans la journée. Et tant qu'on ne comprendra pas ça en Belgique, il n'y aura pas de résultats. Et c'est comme ça s'est passé comme ça en Amérique et en Scandinavie. Tu parlais que le premier podcast que tu as fait, c'est l'éducation. Ben, il faut s'asseoir ensemble, ministre des Sports, ministre de l'Éducation, et faire du copier-coller avec ce qui se passe dans les autres pays. En Allemagne, on a pendant des années, moi j'ai joué la première fois contre l'Allemagne en 2005, ben ils s'entraînaient plus que les hommes, les filles s'entraînaient plus que les hommes belges à cette époque-là, deux fois par jour. C'était des modèles, mais elles étaient déjà pros en 2005.
Ouais,
donc
ouais,
on leur donnait beaucoup plus de facilité. Et je dis à Van Azenbroek, on ne veut pas 2000 euros par mois, on veut juste avoir des salaires corrects, comme des employés, des salariés qui se lèvent et qui vont faire leur boulot par passion. Il faut bien penser qu'on ne fait pas ça jusqu'à 40 ans. J'ai arrêté là en 37-38 sans avoir été blessé et sans avoir pu vivre de mon sport. Mais finalement, est-ce que tout le monde doit encore maintenant, en 2022, faire des sacrifices comme moi, j'ai fait 15 ans? Et je veux juste donner un accès à un emploi, mais en sportif de haut niveau.
Ouais.
Mais en journée, donc l'éducation, aller à l'école jusqu'à 14h, et à 14h, commencer à faire des entraînements, aménager les horaires scolaires, de manière à trouver un équilibre. Et comme ça, 18h, t'as fini, et t'as ta vie de famille, que moi, j'ai pas eu de vie de famille pendant 15 ans, parce que j'étais jamais là. Donc j'étais toujours dans ma voiture à manger mes tartines et à faire mes plats le matin. Et toutes les autoroutes, parce que j'ai joué en Anderlecht, donc j'ai passé E40, 411 et tout ça assez souvent. Ben les gens des stations-service, ils me connaissent par cœur, parce que c'est devenu même des potes. Hein, et puis comme j'ai chaque fois dû concilier deux mi-temps et puis le foot. Et puis quand t'as le travail pour la Fédé une mi-temps, ben tu dois mettre jogging Adidas. Puis avant d'arriver à ton club qui est capable, tu dois te changer dans ta voiture. Et voilà, c'est ça.
Oh là là.
athlètes Camilos et Cynthia Bolingo, la judokate Charline Van Snick ou encore Justine Hénin, autant de grands noms du sport belge au féminin parmi d'autres, qui ont signé la carte blanche de Balance ton sport. Elle dénonce notamment les inégalités flagrantes entre les hommes et les femmes, même dans certains sports comme le hockey, réputé relativement plus égalitaire.
C'est toujours ce concept de relativement, hein, c'est le on est presque à égalité, on est presque payé la même chose, il y a presque les mêmes, et ce presque en fait est insupportable parce qu'on n'y est pas encore. On voit même dans un club comme celui-ci, mais tout est fait pour qu'on soit bien en tant qu'athlète féminine, mais il y a encore cette disparité sur les salaires par exemple.
Mais juste une petite chose par rapport au lieu séparé, puisqu'on est parti de là, hein, des horaires d'entraînement, et je pense que ça se passe à tous les niveaux, donc c'est vraiment systémique dans les clubs amateurs. Mmh. Enfin, moi je l'ai vu avec ma fille, les garçons s'entraînaient de 17h à 19h, et les filles s'entraînaient à partir de 19h30 jusqu'à 22h parfois, enfin 21h30, 22h, et là on les laissait partir dans la nuit. D'un côté, tu as un discours paternaliste, attention, il ne faut pas vous blesser, faites un sport en douceur. Et de l'autre côté, si tu t'aventures quand même de le faire, à tes risques et périls. Sous-entendu, tu vas partir seule la nuit, en short avec tes chaussettes en sortant du club, et tu rentres à pied chez toi. Pour dire qu'il n'y a jamais eu de réflexion au sein des clubs, je parle amateur dans l'occurrence ici, de se dire, bah, tiens, peut-être qu'on pourrait faire une semaine sur deux.
Ben oui, ça me paraît. Ouais, ouais.
Dans des horaires corrects, ou pareil pour les douches.
Aline, quels sont les centres de formation avec un programme foot féminin en Belgique? J'ai lu qu'il y en avait un, en tout cas du côté de Louvain.
Oui, donc à Louvain, c'est le projet flamand, les Yellow Flames, qui ont installé ça dans un campus scolaire. Donc là, ils ont des entraînements le matin ou l'après-midi. Donc là-bas, la grille d'horaire a été directement bien mise en place avec la direction. Côté francophone, en 2015, j'ai travaillé là pour l'ACFF, donc l'aile francophone de l'Union Belge. Et on a démarré le foot élite francophone aussi. On l'a posé à Liège tout simplement parce que côté niveau garçon, il existait dans les 5 provinces. Hein, donc il existait à Moucron, il existait à Arlon, il existait à Liège. Et Liège, le gros vivier au niveau du foot féminin était le standard de Liège. Donc il y a beaucoup de jeunes là-bas. Donc c'était facile de nous de le poser là-bas. Parce qu'il y avait deux écoles, le collège Sainte-Véronique et l'IPES de Serein. Donc deux établissements qui proposent deux grilles d'horaire différentes, techniques et plus générales. Et alors, notamment des Carcella ou des Witzel sont passés par cette formule-là au niveau garçon. Et donc, on l'a ouvert pour les filles. Donc, la première année, on a eu une quinzaine d'inscrites. La deuxième année, on est passé à 20. Et petit à petit, on est arrivé à 25. Donc, pour avoir accès à ce centre d'élite, que ce soit en Flandre ou en Wallonie, il faut passer un test d'entrée, donc, qui se passe à Tubi, ce centre national, en mois de mars souvent. Ça demande aussi aux parents, ben, soit de proposer un internat, il y a des coûts si tu veux.
Ouais.
Le truc, c'est qu'elles ont un entraînement quatre fois en matinée, donc de 10h30 à 12h30, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Après, celles qui sont en internat, ben, ne savent pas relayer leur club. Par exemple, si quelqu'un vient du Hainaut, ben, les parents doivent venir la chercher de l'internat. Ou alors, la fédération met en place un entraînement du soir pour les filles qui ne sont pas... Voilà, donc ça, c'est de la coordination qu'il faut faire avec les clubs qui acceptent... Ben non, qui sont fiers que leur joueuse est en élite la journée et la semaine, et que le week-end, elle retrouve son club garçon ou fille, en sachant que les filles peuvent jouer maintenant avec les garçons jusqu'à l'âge de, par exemple, 19 ans. Tu peux jouer en catégorie U17, donc 2 ans en dessous.
Oui, c'est un grand changement, ça, quand même.
C'est un grand changement, mais c'est un peu comment t'es considéré, mais comment tu sais gérer. Si t'as une bonne taille, si t'as une bonne vitesse, en fonction de ta position sur le terrain. Donc, une de mes joueuses, par exemple, l'a fait. Elle était gardienne. Donc, et dans son évolution, ça lui a permis d'avoir des top matchs, d'avoir des plus grosses frappes en face d'elle par rapport à des jeunes filles de son âge. Parce que voilà, ouais, une jeune fille de 19 ans, quand elle n'est pas formée, ne va pas frapper de la même intensité qu'un garçon. Donc, elle, donc c'était bien.
Le judo belge a l'honneur à Séoul avec une médaille d'or dans la catégorie des moins de 72 kilos grâce à Ingrid Bertmans. Médaille d'or dans un sport de démonstration certes qui n'obtiendra droit de cité qu'en 1992 à Barcelone. Mais un succès qui ne doit rien à personne pour la grande dame qui règne sur le judo féminin depuis 1980. Ingrid Bergmans a gagné tous ses combats, on ne peut plus nettement, c'est-à-dire par ipone, pour savourer avec son entraîneur un bonheur infiniment mérité.
Thank you, vriendelijk. Bravo.
On en rêvait, elle l'a fait. Il est 15h45 cet après-midi. Tia est championne olympique.
On en pleure. C'est incroyable. On est championne olympique.
Première médaille d'or de ces Jeux pour la Belgique. Première médaille d'or aussi pour une femme dans l'histoire de l'athlétisme belge. À 30 ans, Tia Elleboet décroche la récompense suprême. Chapeau.
Puisque le but de ce podcast, c'est aussi de parler des lionnes dans le sport, je ne pourrais pas ne pas citer quelques-unes de ces grandes sportives. Car oui, en effet, la Belgique a de nombreuses sportives talentueuses et qui ont fait leur marque sur la scène internationale. Une des plus grandes sportives belges est certainement Justine Hénin, qui a remporté 7 titres du Grand Chelem en tennis. Elle a également été numéro 1 mondial pendant plus de 100 semaines consécutives, ce qui est quand même, franchement... Mais la joueuse de tennis Kim Clijsters n'est pas en reste. Avec ses 4 titres du Grand Chelem en simple et 2 en double, tout en étant classée numéro 1 mondial à plusieurs reprises. Dans le premier épisode des Lyon, nous avions parlé de la cycliste Yvonne Reinders, hein, le Eddy Merckx au féminin, comme les hommes aimaient à l'appeler. Mais on pourrait aussi parler de la cycliste Marianne Vos, qui est née en 1987 et qui a remporté de nombreux titres mondiaux en cyclisme sur route et en cyclocross. Le domaine de l'athlétisme est aussi très prolifique. Ça on le sait bien, avec des grandes sportives comme Tia Elleboet, une athlète spécialisée dans l'heptathlon et surtout le saut en hauteur de 2001 à 2008. Elle a remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2008 à Beijing ainsi que plusieurs titres européens et mondiaux en salle et en plein air. Et puis il y a la reine, bien entendu, celle qu'on connaît tous car elle a fait briller notre petit pays comme jamais, Nafisa Tutiam. Elle a remporté le titre olympique en heptathlon aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio et de 2020 à Tokyo, devenant ainsi la seconde heptathlonienne à conserver son titre olympique et la première sportive belge à obtenir 2 médailles d'or olympiques consécutives. Et elle vient de battre le record du monde de pentathlon le 3 mars 2023 lors des championnats d'Europe en salle à Istanbul. Dans le monde du judo, bien entendu, nous avons l'incontournable Ingrid Bergmans, mais sans doute elle, vous la connaissez, hein, car les médias en ont beaucoup parlé. C'est vrai qu'elle est quand même l'une des sportives les plus récompensées de l'histoire du judo. 6 fois championne du monde, 7 fois championne d'Europe. Elle a gagné une médaille d'or olympique à Séoul en 88, alors que le judo féminin était un sport de démonstration à l'époque. Ingrid a été élue 8 fois sportive belge de l'année et elle a pris sa retraite sportive il y a bientôt 20 ans. Mais peut-être vous ne connaissez pas la judokate Charline Van Snick, qui est une autre grande sportive belge. Elle a connu un grand succès aussi sur la scène internationale. Elle a remporté une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et également remporté plusieurs médailles lors de championnats du monde de judo. Dans les arts de combat, puisqu'on a quand même beaucoup entendu que les arts de combat n'étaient vraiment pas faits pour les femmes, nous avons aussi des boxeuses remarquables comme Delphine Persson, une boxeuse originaire de Flandre occidentale, qui a commencé sa carrière en 2009 et a rapidement fait sensation en remportant plusieurs titres de championne du monde. Persson est également connue pour sa grande détermination et son engagement en dehors du ring, ayant travaillé comme policière avant de se consacrer pleinement à la boxe. Dans le domaine du foot au féminin, on trouve aussi, bien entendu, des personnalités fortes qui font bouger les choses au niveau sportif et brillent par leur talent de performeuse. Comment ne pas te mentionner Aline Zeller, une joueuse légendaire qui a porté le maillot de l'équipe nationale à 111 reprises, faisant d'elle la joueuse belge la plus capée de tous les temps. Alors Aline, tu as joué pour plusieurs clubs en Belgique, en France, en Allemagne, remportant de nombreux titres tout au long de ta carrière. Ton leadership et ton expérience ont été d'une grande valeur pour l'équipe nationale belge. Mais on peut citer également Janice Caïman, avec qui tu as travaillé, une milieu de terrain talentueuse qui a commencé sa carrière en Belgique avant de partir jouer en France et en Espagne. Votre succès sur le terrain a inspiré toute une nouvelle génération de joueuses et a contribué à donner de la visibilité et de la reconnaissance à ces disciplines sportives longtemps négligées en Belgique. Alors nous avons bien entendu Tessa Willaert, Tine de Kenny et Justine Van Avermaet, entre autres, bien entendu, il n'y a pas qu'elles, qui sont des joueuses belges de premier plan et qui ont aussi contribué à faire avancer le football féminin. Alors Tessa Willaert est une attaquante talentueuse qui a commencé sa carrière en Belgique avant de partir jouer en Allemagne et en Angleterre. C'est une véritable machine à but avec un jeu technique et rapide qui laisse les défenseurs souvent perplexes, ce qui en fait l'une des joueuses les plus redoutables de la scène internationale. Comment ne pas parler également de Nina de Roal, cette gymnaste belge bruxelloise de renommée mondiale qui est née dans les années 2000. Elle a remporté de nombreux titres nationaux et internationaux, notamment la médaille d'or aux barres asymétriques aux championnats du monde de 2018 et de 2019. Alors en 2021, Nina Droual a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo, où elle a remporté la première médaille d'or de l'histoire de la gymnastique belge, en remportant l'épreuve des barres asymétriques. Elle a également terminé quatrième du concours général individuel, confirmant ainsi son statut de l'une des meilleures gymnastes du monde. Ce n'est pas rien. Mais comme dans toutes les disciplines sportives, derrière l'arbre, il y a la forêt. Il y a donc tout un tas de sportives endurantes, courageuses, techniciennes, incroyables, mais je ne peux pas toutes les citer ici. Et le monde du sport, aujourd'hui, est lui aussi en ébullition et séduit de plus en plus de filles de notre petit royaume. Et j'ai vraiment hâte de voir qui seront nos futures championnes.
Norwitz qui passe la ligne en 2-0-8. Et ça sera trop juste, je pense, pour Nord. Et Thiam va être championne olympique. C'est fait. Deuxième titre consécutif pour Nafi. Magnifique, magnifique. Elle a géré ça comme une championne olympique qu'elle est. C'est sensationnel. Deux médailles d'or pour la Belgique aux Jeux Olympiques de Tokyo en quelques dizaines de minutes.
Alors, on est fiers de nos championnes. Pourtant, aujourd'hui encore, leurs salaires ne sont pas à la hauteur de leurs médailles. Alors, Yvonne Renders nous racontait qu'elle gagnait des prix en nature.
Il m'est arrivé de remporter une compétition avec la même figure que celui qui avait remporté chez les hommes. Il avait gagné un voyage à Hawaï. J'ai gagné un t-shirt.
Ça a l'air complètement surréaliste. Mais finalement, encore aujourd'hui, la question se pose. On en a déjà parlé plusieurs fois. Donc tu expliquais que ben voilà, il fallait travailler la journée et suivre son entraînement le soir. Donc ça fait en effet pour les sportifs des doubles journées. Est-ce qu'il y a des perspectives de changement ?
Quand tu fais tes choix de carrière en tant que femme dans le sport de haut niveau, ben, tu dois toujours réfléchir à « Ah oui, si je me blesse demain, si j'ai plus mon genou et j'ai plus de ménisque, ben, qu'est-ce que j'ai ? Je dois avoir une situation professionnelle, sinon je suis à la rue ou sinon je dois retourner chez mes parents. » On doit réfléchir. La Pro League, c'est une île à part. Donc le football professionnel, les droits TV, tout ça. Le foot féminin doit avoir sa place, doit être rémunéré, hein, meilleur, mais pas avec des montants comme ça. Parce que ça ne nous ressemble pas, nous les femmes. On est plus dans notre bien-être et dans les choses qui sont justes. Je pense que le foot féminin doit être un exemple pour le foot rémunérateur professionnel où il y a des Mbappé qui touchent des millions. Il faut qu'ils redescendent sur terre avec des sports comme les nôtres, quoi.
Et vous, ouais. Vous avez déjà été payé en nappe ou en service à café comme Yvonne Renders?
Non, franchement non. Des bouquets de fleurs et tout ça, mais non. Les montants que moi je touchais, c'était toujours déclaré. Donc ce sont des conventions, hein, on appelle ça. Mais c'était toujours des montants qui faisaient rire parce que j'étais capitaine d'équipe nationale et on avait des, si tu veux, mes premières primes en équipe nationale, j'ai touché en 2013, c'était 200 euros la victoire. Tandis que mes amis qui étaient en...
200 euros la victoire.
Oui, ouais, tandis que vous pouvez chercher ce que gagnent les diables quand ils gagnent.
Je les ai aussi.
Et alors, c'était en 2013. À côté de ça, une amie était en équipe nationale du Maroc, elle gagnait 2000. Où les joueuses d'équipe française avaient chaque fois un équipement Nike à chaque sélection, bah, elles repartaient avec à la maison. Nous, encore à l'heure actuelle, on ne pouvait pas reprendre le maillot, pas une chaussette, tout était calculé, les stocks par année. Hein. Et donc, pour tout ça pour dire que même avec mes 9 titres de championne au standard, j'avais pas un montant pour pouvoir vivre. Des hommes qui jouent en P3, P4, P2 ou P1 étaient payés, eux, à côté. Hein, on connaît en dessous de la table 2 fois plus que moi, donc en s'entraînant 2 fois semaine. Donc.
On nous fait un procès en incompétence a priori. Parce qu'on est une femme, on n'est pas compétente a priori. C'est à nous de démontrer que nous sommes compétentes. Un homme, on ne se pose pas la question.
Aujourd'hui, on continue en tant que femme à signer des licences amateurs au sein de la Fédération française de cyclisme, ce qui n'est pas le cas pour les hommes qui signent des licences professionnelles. Nous, on demande juste à être reconnus à notre juste valeur et à pouvoir faire du cyclisme notre métier.
Faire d'ailleurs Victoria Raval, ancienne volleyeuse, qui dénonce les conditions de travail et salariales de son ancien club, hein, où le président a dit « si vous n'avez pas de meilleurs résultats, je ne vous paye pas ».
Quel est le lien entre la médiatisation des sportifs, des sportives et leur salaire, Anne-Françoise ?
Alors, en fait, concernant les sportives, ça personne, enfin, on ne l'apprend pas, c'est les sportives sont moins visibles. Et elles sont moins bien payées. Ça, c'est les faits. Donc, que les hommes, en tout cas. Et donc, forcément, elles sont moins bien sponsorisées. Donc, sans salaire décent, sans contrat sponsor, peu d'entre elles, en fait, auront la chance de poursuivre leur carrière. Donc, pour être clair, une sportive qui gagne sa vie n'est pas contrainte de travailler en dehors. Donc, Aline en parlait, elle est obligée de faire de plein temps, hein, voire donc double journée, voire triple journée avec les trajets. Et donc une sportive qui n'est pas contrainte de travailler en dehors, elle peut donc se consacrer 100% de son temps à son sport, s'entraîner, augmenter ses performances et, de facto, devenir un jour championne. Enfin, elle peut espérer l'aide si toute sa journée est occupée par ses entraînements. Une fois championne, elle sera davantage visible dans les médias et il y a donc de fortes chances qu'un sponsor la sollicite pour promouvoir une marque. Donc, ce qui augmentera ses revenus. Et donc, si ses revenus augmentent, ça va lui permettre de consacrer encore plus de temps à son sport. Donc, il y a un espèce de cercle vertueux à la médiatisation. Plus un sport est connu et promu, plus il y a de chances de voir émerger des sportives de talent. Donc, ce qui apparaît dans l'histoire du sport des femmes, c'est qu'en raison du manque de valorisation, ça peut être financière, ou de visibilité, de médiatisation, les femmes finissent par disparaître des podiums et même de la pratique amatrice. Et le cas de d'Aline qui se retrouvait à 15 ans avec des femmes de 30 ans ou 25 ans qui regrettaient de ne pas avoir pu faire du foot avant en témoigne. Donc, les jeunes ont besoin de modèles pour se lancer dans un sport, des références, d'une personne qui dit « oui, c'est possible, moi j'y suis arrivée ». Et donc, pour ça, il faut les voir, il faut les suivre, il faut les voir dans leur ascension. Et le public qui aime regarder le sport des femmes, pour ce faire, il est important de d'encourager ces sportifs financièrement, de leur permettre de gagner autant que les hommes, ce qui n'est pas du tout le cas donc, dans la majorité des disciplines.
Quel professionnel de foot belge connaissez-vous?
Eden Hazard.
Lukaku.
Courtois.
Kevin De Bruyne.
Mertens.
Une qui est grande, avec les cheveux bouclés.
Marouane Fellaini.
Ok, et connaissez-vous une joueuse?
Une joueuse, ouais.
Non, pas du tout.
Aïe.
Non, c'est dommage d'ailleurs.
Non.
Je vais me présenter. Moi, je suis Julie Bismans et je suis une joueuse de l'équipe nationale, la Red Flames.
Ah oui, enchantée.
Enchantée.
Vous êtes vraiment joueuse.
Et pourquoi pensez-vous que le foot peut être important pour les filles?
Qu'on soit tous au même niveau entre les hommes et les femmes.
De mettre sur un pied d'égalité le football féminin et le football masculin.
Aujourd'hui, on est là avec Plan International Belgique pour questionner les stéréotypes de genre. Dans nos projets aussi, on utilise le foot pour faire évoluer l'égalité entre filles et garçons.
Pour le tennis, il y a une exception avec la joueuse Billie Jean King dans les années 70. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le film La bataille des sexes en 2017.
Allô?
Eureka, Billie Jean!
C'est Bobby Riggs. Écoutez, j'ai une idée géniale.
Le porphalocrate machiste contre la féministe aux jambes poilues. Rien de personnel.
Vous êtes toujours féministe?
Non, je suis une championne de tennis qui se trouve être une femme.
Ne raccrochez pas!
Ah, et pour votre gouverne, je me rase les jambes.
Et nous avons le privilège, nous autres fans de tennis, de recevoir la grande Billie Jean King. La rumeur dit que vous, les filles, vous êtes rebellées.
Vous offrez 8 fois plus aux hommes qu'aux femmes.
Les hommes sont tout simplement plus captivants à voir jouer. C'est biologique.
Donc elle était une championne, une militante des droits des femmes puis LGBT. Et elle est parvenue à imposer une égalité salariale en 1973. Elle créa la Women's Tennis Association. Et elle obtient cette égalité à travers les prize money. Donc suite à des matchs, donc justement quand on est gagnante d'un match, eh bien les joueuses professionnelles en tennis aujourd'hui reçoivent les mêmes montants que les joueurs masculins. Donc cette bataille des sexes a existé en 1973. C'est un match qui s'est joué entre elle, donc Billie Jean King, et Bobby Riggs. Bobby était à l'époque un ancien numéro 1 mondial de 55 ans, parieur, invétéré et gros misogyne, autoproclamé d'ailleurs. Il disait « la place des femmes est dans la chambre à coucher et dans la cuisine ». Malgré sa certitude de gagner, parce que c'est pour ça qu'il a proposé à Billie Jean King de faire un match contre elle. Donc, grand ramdam, très très médiatisé, et Bobby en fait perd contre Billie Jean King. Et depuis cette victoire, Billie a permis aux joueuses de se professionnaliser, et quand je dis se professionnaliser, c'est-à-dire de gagner suffisamment d'argent pour développer leur talent, pour se consacrer à 100%. Et donc, s'il y en a une qui le fait, ben, il y en a plusieurs. Il y a des académies qui se créent. Du coup, il y a un public aussi qui vient assister. On les suit jusqu'à leur ascension et toute une carrière, en fait. Hein. Et donc, c'est pour ça que les tenniswomen sont parmi les sportives, en fait, les mieux rémunérées de la planète. Je parle donc du sport féminin. Alors, par contre, les footballeuses, ça, c'est pas encore le cas. Ce qui oblige d'ailleurs la majorité des joueuses à travailler en dehors des heures d'entraînement. Hein. En fait, en Belgique, il n'y a pas, ou il y a peut-être deux joueuses professionnelles. Pour le reste, elles sont toutes semi-professionnelles, voire amatrices. Mmh. Mais bon, les choses changent. Et c'est vrai que récemment, Megan Rapinoe, qui fut donc le soulier d'or 2019 et deux fois championne du monde avec l'équipe américaine, elle a attaqué en justice avec ses coéquipières américaines sa fédération pour inégalité salariale. Mmh. Il faut savoir qu'aux États-Unis, en plus, les homologues masculins, hein, l'équipe masculine est moins performante que l'équipe féminine. Et elle gagnait moins.
Elles ont été championnes olympiques à deux reprises, ouais. et quand même, là, ça ne bougeait pas.
Ouais. Et donc, après quelques années de bras de fer avec la fédération et les différentes cours de justice, elles ont obtenu gain de cause. Et c'est vrai que grâce à ce combat, en fait, ça s'est répandu dans d'autres pays, notamment... en Norvège, en Suède, et même l'équipe masculine a soutenu, je crois que c'est en Suède, ou en Norvège, a soutenu l'équipe féminine pour cette égalité salariale, parce qu'eux-mêmes trouvaient ça injuste. Hein. Donc, en regard des salaires exorbitants des footballeurs, ben, moi, je pense que c'est un peu légitime. Hein. Pour avoir une idée de comparaison, en France, je pense que c'est des chiffres qui datent environ de 2020. La joueuse la mieux payée, premier ballon d'or du foot féminin, donc la norvégienne Ada Egerberg, hein, à l'Olympique lyonnais, elle percevait un salaire record d'environ, donc c'est record, hein, 400 000 euros par an. Et on sait bien, Neymar au PSG à cette époque était à 30 millions. Donc on a un rapport.
000, oui, hasard, c'est 250 000 euros par semaine.
Oui.
Voilà, comme ça, on a
par
une
semaine, hein, 250 par 000. Semaine. Voilà,
c'est, ça. Oh, c'est ce que je gagne, moi, hein, Benjamin.
Mais non, pour revenir à Rapinoe, elle a écrit un livre aussi qui s'appelle One Life. Et donc, ça, je l'ai lu parce que c'était intéressant de voir. On dit toujours en Amérique, c'est mieux développé, mais finalement, elles sont passées vraiment un peu comme nous, quoi. Parce qu'elles ont dû prouver aussi en gagnant des cacahuètes, d'aller chercher des championnes du monde et des titres olympiques avant de revendiquer un salaire légitime. Et de là, des petits pays comme même le Brésil ou les Pays de Galles sont arrivés aussi à cette égalité, comme le Canada. Et donc, hier, la Hollande a eu les mêmes revendications, donc ça a été passé. Donc, la veille de l'euro, la Hollande a débloqué les mêmes montants que pour les hommes. Donc... Non, c'est vraiment des modèles.
Oui, et puis il faut dire aussi qu'à cette époque, elle s'est mouillée, au sens qu'elle a pris des risques par rapport à sa fédération, parce qu'elle aurait pu être exclue. Et pourquoi elle y est arrivée aussi, et ça je pense que c'est important de bien détacher les éléments qui ont fait qu'elles y sont arrivées ensemble avec cette figure de lance qui est Megan Rapinoe, c'est parce qu'elles étaient numéro un. Mmh. Elles étaient numéro une, en fait.
Ouais.
Et je pense que c'est important de dire que parce qu'elles sont numéro une, elles sont plus visibles dans les médias, et parce qu'elles sont plus visibles dans les médias, elles ont, en quelque sorte, le droit, ou en tout cas, elles se prennent le droit...
Ouais.
Et elles font avancer les choses.
Voilà, c'est ça.
Comme dans chaque épisode, nous allons à présent retrouver Rose, qui va nous présenter une personnalité belge féminine, une lionne dans son créneau et malheureusement souvent inconnue du grand public. Je me suis permise d'emprunter ces mots qui proviennent d'un sujet sur elle dans la Libre Belgique.
La bulle de Rose, la bulle de Rose, la bulle de Rose, la bulle de Rose. Christiane Mertelis, c'est une joueuse de tennis belge qui a marqué les années 50 et 60. Cette Bruxelloise, née en 1931, découvre très tôt le sport qui allait devenir sa passion.
Je devais avoir 8 ans, et avec les autres enfants de mon âge, nous nous précipitions sur le court dès que nos parents avaient terminé leur partie. À cette époque, on ne pouvait pas disputer de tournoi avant l'âge de 14 ans. J'ai donc patienté.
Elle a commencé sa carrière junior en écrasant tout le monde sur son passage en remportant le simple fille du tournoi de Wimbledon en 1949. 2 ans plus tard, à l'âge de 19 ans, elle remporte le premier de ses 13 titres de championne de Belgique en simple. La fédération l'incite à tenter le circuit international.
C'était bien beau de voyager. Mais je me rappelle que pour mon premier Roland-Garros, la fédération m'avait alloué un budget de 2000 anciens francs. Avec cela, il fallait payer le transport, le logement et les autres faux frais. Bref, cela pouvait aller si vous étiez éliminé au premier tour. Pour mes premiers pas à Paris, j'ai réussi à passer un tour, ce qui était déjà une belle performance.
Mais ça, c'est rien. Son meilleur résultat dans un tournoi du Grand Chelem, c'est un quart de finale à Roland-Garros en 1957, où elle était tête de série numéro 3. Elle a aussi participé au tournoi de Wimbledon 18 fois, entre 1951 et 1968, et a atteint les huitièmes de finale 3 fois, en 1954, 1955 et 1958.
Disons que si un classement mondial avait existé, j'aurais pu flirter avec le top 15. En Europe, j'aurais été numéro 1 ou 2. Il faut dire qu'à cette époque, les Américaines et les Australiennes surclassaient un peu tout le monde. Je me rappelle d'avoir joué avec la jeune Américaine Connolly au premier tour de Roland-Garros. Je devais avoir pris 5 jeux, et elle déclara pourtant qu'elle avait été surprise par la qualité de mon coup droit. Un bel hommage.
Alors c'est vrai, sa carrière n'a pas garni son compte en banque. Elle a travaillé comme secrétaire dans une bonneterie pour gagner sa vie jusqu'au milieu de sa trentaine. Mais à 35 ans, elle a quitté son boulot alimentaire et est devenue coach et entraîneuse nationale pour des joueuses de tennis de la jeune génération. Aujourd'hui, Christiane a 91 ans. Elle a arrêté de jouer au tennis il y a seulement quelques années. Christiane Mercelis, c'est donc une vraie légende du tennis belge. Elle a remporté pas moins de 83 titres de championne de Belgique, toutes catégories confondues pendant sa carrière. Et en senior, elle a raflé 13 titres en simple et autant en double. À la fin des années 50, elle faisait partie des 20 meilleures joueuses mondiales et des 3 meilleures européennes. Bref, une carrière qui inspire les joueuses de tennis du monde entier, pas vrai ?
La bulle de rose, la bulle de rose, la bulle de rose, la bulle de rose.
Alors on va maintenant passer à l'image des sportives. Est-ce que vous pourriez, Anne-Françoise, nous parler un peu de la représentation des sportives dans les médias ?
Alors, la représentation, donc, c'est tout ce que les femmes vont montrer physiquement ou ce qu'elles vont dire. Hein. Donc déjà physiquement... Auparavant, il fallait que les femmes soient couvertes de la tête aux pieds. Hein. Aujourd'hui, elles sont plutôt souhaitées dénudées, mais pas trop, musclées, mais pas trop. Donc ça, on en a déjà parlé. Et en fait, on a toujours cette impression que soit c'est trop, soit c'est pas assez. Et pourtant, on est bien d'accord que l'objectif, c'est pas de plaire aux hommes, c'est juste de performer dans leur sport. Donc il y a une sensation qu'elles sont systématiquement jugées sur leur apparence extérieure, alors que c'est donc, on parle de leur performance. Et bien entendu, ben, il faut qu'elles convainquent les journalistes, les sponsors, les publics, parce qu'elles en ont besoin pour être visibles. Mais elles sont souvent tiraillées donc, entre les injonctions de société, tenues de gérer leur image de féminité. Et il y a quand même toujours aussi cette norme hétérosexuelle en filigrane. Aujourd'hui, on voit des nouveaux modèles émerger. Moi, j'appelle ça des figures badass, c'est-à-dire un peu les durs à cuire, qui sont des figures qui, justement, s'assument complètement, qui sont fières de leur corps, fières de leur apparence, fières de leurs résultats, hein, puisqu'on parle de performance, et qui refusent toute sexualisation sur des clichés sexistes. Hein. Et ces figures d'empowerment, qui sont ces femmes badass, elles contrôlent en plus leur image via les réseaux sociaux. Et ça, c'est un nouveau moyen de communication qui a permis justement l'émergence de différentes personnalités. On parlait des différents modèles, mm-hmm. hein, cette pluralité de modèles, par rapport aux médias dominants qui donnaient un peu la note. Voilà, les femmes doivent être comme ça, vous sentez-vous ridicule. Mais non, en fait, maintenant, c'est elles qui communiquent comme elles le veulent, elles s'habillent comme elles l'entendent. Et donc, ce qu'on peut observer, si on prend un grand panel dans les représentations et dans les discours, c'est que, d'une part, sur le plan quantitatif, il y a toujours une sous-médiatisation. Hein, les hommes sont toujours cités 3 fois plus souvent. Ça, ce sont, si tu veux, ce sont des résultats sociologiques. Hein, donc, sur base de ce qu'on voit, de ce qu'on entend dans les médias, on voit que quantitativement, elles sont sous-médiatisées, citées moins souvent, visibles moins souvent, puisque les tournois masculins prédominent, souvent en prime time, que les systèmes sont composés majoritairement d'hommes. Quand je dis système, ce sont les fédérations, les rédactions de sport, les journalistes, les entraîneurs, et les joueurs, bien sûr, sont plus médiatisés. Et enfin, on voit aussi une différence entre les sports médiatisés. Donc, on voit plus de tennis ou de football. En l'occurrence, Kim Clijsters et Justine Henin, à l'époque, ont fait vraiment la une des journaux. Et on voit beaucoup moins les équipes de volley, de basket, malgré qu'il y ait très, très bon classement dans les équipes belges. Et bien sûr, on a parlé de l'inégalité salariale qui entraîne une dévalorisation du métier et de sa visibilité. de sa visibilité. Sur le plan qualitatif, les discours médiatiques restent encore fort stéréotypés. Donc on parlait de... Ils sont fort axés sur la sexuation, donc on parle de sport féminin versus sport, hein, sous-entendu d'hommes. Souvent les sportives, dans les journaux, dans la presse, sont représentées de manière statique. Donc on les voit passives, en civil, dans leur intérieur, tu vois. Alors que les hommes, en général, on les voit en action, un peu transpirants. Et donc on constate que chez les femmes, chez les sportives, l'axe de ces discours est souvent axé sur leur vie privée, plutôt que sur leur performance de nouveau, sur leur capacité à rester féminine dans un univers masculin, sur leur désir d'enfant, incompatible avec la compétition, sur leurs compagnons, leurs tâches ménagères. De même, quand on va les qualifier, pour les athlètes féminines, on va parler d'une athlète âgée, d'une athlète enceinte, mariée. Et pour les hommes, on parlera d'un sportif fort, grand, rapide. Alors, deuxième phénomène, au niveau qualitatif, on voit une érotisation des corps, avec une, souvent dans les photos, hein, des articles de presse, une mise en scène qui est parfois proche de la pornographie douce. Hein. On s'attache à l'apparence physique. Par exemple, dans l'image, la pub Roxy, des surfeuses. Hein, donc c'est une marque de vêtements pour surfeurs, surfeuses. Eh bien, on voit les fesses des surfeuses. On ne voit pas tellement leur visage, donc on voit les corps qui sont découpés, on voit plus le corps, l'apparence physique. Et donc, parfois, on va les qualifier d'intruses, un peu dans ce milieu-là, surtout si elles ne sont pas des canons physiques, si elles ne sont pas spécialement... si elles ne correspondent pas à la beauté. Eh bien, on va entendre dans les commentaires en radio, souvent, on entend des commentaires genre « elle n'a pas un physique terrible, mais qu'est-ce qu'elle est performante ?» Comme si il fallait toujours compenser par le physique. Et enfin, une chose qu'on peut constater dans les discours, c'est aussi une diminution intellectuelle et physique. C'est-à-dire, par exemple, le slut shaming. Hein, par exemple, dans le cas de Serena Williams, le président de la Fédération de tennis, qui l'a un peu renvoyée à un statut de petite fille, un peu provocante, un peu mal habillée, selon ses critères à lui. Et dernière chose, parfois, on constate aussi qu'on utilise plus le prénom pour les athlètes féminines que pour les athlètes masculins. Le prénom, c'est un peu l'espace intime. Et donc, on ne cite pas leur nom de famille, comme s'il fallait un peu les infantiliser. C'est la petite, quoi. Souvent, on entend elle a joué comme un homme. Quel mec, cette femme. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on retrouve dans les discours, dans les représentations.
Bien sûr que quand on est une jeune femme de 18, 19, 20, 21, 22, 23 ans, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de jouer en bikini et de montrer ses fesses à tout le monde. Et puis comment vous faites quand vous avez vos règles? Comment vous faites? Est-ce que vous allez jouer avec la peur que le fil y dépasse, que vous allez tâcher, je sais pas, que ça... Tout ça, ce sont des questions que nous, les femmes, nous connaissons par cœur. C'est des choses sur lesquelles on est encore aujourd'hui obligé de se battre. De se battre, vous m'entendez, de monter au créneau pour aller demander et exiger qu'on puisse porter autre chose qu'un bikini. Quand les hommes, eux, ils peuvent jouer comme ils veulent.
Où est la recherche de performance dans le fait de porter une brassière?
Pourquoi au son hauteur on est déshabillé aussi? Pourquoi les volleyeuses on est déshabillées? Pourquoi?
Comment doivent s'habiller les sportifs? Tout un programme, apparemment qui a l'air d'intéresser particulièrement les hommes. Puisque depuis plus d'un siècle, ils nous disent comment, dans le sport, les femmes doivent s'habiller et comment elles ne peuvent pas et ne doivent pas s'habiller.
Anne-Françoise, est-ce que par rapport à l'image du modèle féminin, l'habit fait le sexe?
C'est une phrase que Christine Doucet, sociologue, a prononcée et qui résume l'idée que les sportives, comme une seconde peau, hein, vont révéler leur sexe à travers leurs vêtements et donc leur rôle sexué donc, dans la société. Et historiquement, si on voit quand on dit elles sont trop habillées, pas assez habillées, on a toujours une remarque de trop ou pas assez, et le vêtement est révélateur de ce sexisme. Et donc l'accès des femmes a toujours été alourdi de lourds interdits vestimentaires. Le vêtement qui permet de distinguer les sexes en apparence, hein, nombreuses furent celles qui se travestirent afin de pouvoir pratiquer leur sport, qui nécessitait entre autres contre l'usage d'un pantalon. Or, elle devait porter des jupes, par exemple, pour l'aviation, pour l'alpinisme, pour l'équitation. Et donc, elles se sont déguisées, en quelque sorte, en hommes, pour pouvoir pratiquer leur sport. Et donc, le vêtement, il n'a cessé d'osciller entre des politiques de répression masculine et des volontés d'émancipation féminine. Et en tennis, par exemple, en 1910, on disait qu'il convenait pour une femme de jouer couverte de la tête aux pieds. Aujourd'hui, on exige qu'elle soit plus dénudée. Donc, il y a toujours cette idée de différenciation sexuée à travers le vêtement. Et pour certaines sportives, le vêtement va mettre leur corps en valeur. Pour d'autres, elles vont préférer cacher leur masse musculaire en fonction, justement, de l'appréciation des personnes qui les regardent et en fonction de ce qu'elles estiment juste ou pas. Et donc, dans les années 90, on assiste, parce que c'est intéressant de voir le vêtement qui fait le sexe, en tout cas dans le sport, à travers différentes politiques et des logiques qui se sont opérées dans les fédérations. Et on a vu, entre autres, dans les années 90, la politique du tailleur, qui était où les journées jupes, qui étaient, en fait, on obligeait les athlètes, les joueuses championnes, en plus, donc qu'on mettait en valeur pour leur performance, mais en réalité, on les mettait quand même en valeur pour leur physique, puisqu'il fallait, lors des représentations dans les clubs ou du club, elles devaient s'habiller, elles devaient porter la jupe ou le tailleur. J'ai un exemple plus récent de joueuse de beach volley qui ne voulait plus porter le bikini, mais un short, pour des raisons pratiques. Et elles ont dû faire des pieds et des mains, c'est le cas de le dire.
Pour, il y a eu beaucoup de bruit dans la presse autour de ça.
Oui, tout à fait, pour qu'elles puissent jouer simplement en short. Donc on sent qu'il y a toujours une mainmise des fédérations, ou en tout cas des clubs, des entraîneurs. Où il y a comme une impression, enfin, c'est vraiment un sentiment qu'il y a une oppression sur le corps, mais aussi, évidemment, ça passe à travers le vêtement, bien entendu.
Moi, je suis choquée. Un 5 mètres garçon, il court, il fait son 100 mètres. Il est habillé, il a un petit maillot avec des, hein, comme ça, et un petit short. Et nous, on est toutes nues, là.
La sexualisation des femmes, mais c'est hallucinant. On voit toutes leurs culottes, mais faut pas croire que dans le foot, ça se passe pas non plus. Parce que dans le foot, les shorts ont petit à petit raccourci, les maillots sont de plus en plus près du corps, les manches sont de plus en plus courtes. En fait, c'est dans tous les sports pareil, évidemment.
Moi, je suis footballeuse, je veux un short qui soit un short correct, qui me permette d'être efficace dans ma performance, d'avoir les mouvements qu'il faut. Parce que moi, ce que je veux, c'est être la meilleure, la plus forte. Et donc, c'est le vêtement qui s'adapte à ma performance et pas moi qui m'adapte au regard des gens qui sont supposés aimer ma performance.
Pour les tenues qui sont toujours souvent plus sexy hein, pour les filles que pour les garçons. On pense au bikini pour le beach volley, à la jupe pour les joueuses de tennis. Ça, comment on fait pour changer ces mentalités-là ?
On râle, on dénonce, et ça fonctionne. À chaque fois que les sportives ont dénoncé, surtout ces derniers temps, ça a changé, ça a fait évoluer les choses. Mm-hmm. Vous parliez du beach volley, je parlais du beach handball cet été, on en a beaucoup parlé, les Norvégiennes n'ont pas voulu porter le bikini, mm-hmm. hein, plutôt le string, parce que ça ressemblait plus à un string qu'à un bikini. Elles ont eu des amendes, mais elles ont été surtout rejointes par les Françaises, par la Fédération et d'autres fédérations qui ont poussé avec la Norvège, et résultat, le règlement a changé, et aujourd'hui elles peuvent porter autre chose qu'un bikini pour jouer au beach.
Des affaires, il y en a beaucoup, ça c'est clair, comme aussi celle de, une des plus célèbres, c'était celle de Serena Williams qui avait porté lors de Roland-Garros une tenue en lycra noir qui s'était fait allumer après en plus avoir gagné par rapport à sa tenue par le président de la fédération, alors qu'au départ c'était une tenue contre les problèmes d'embolie pulmonaire, en fait. C'est bien ça. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait encore dit, le président...
Le président de l'époque de la Fédération française de tennis, Bernard Ciudicelli, déclare « Je crois qu'on est parfois allé trop loin. La combinaison de Serena, cette année, ça ne sera plus accepté. Il faut respecter le jeu et l'endroit. Tout le monde a envie de cet écrin. » Sous-entendu, un écrin blanc, toi, masculin.
Petite jupette.
Petite jupette, voilà. Et donc... très choquée par ce communiqué, son sponsor à Serena, qui était Nike, hein, donc pose un post sur Insta et dit, vous pouvez, cette magnifique phrase, vous pouvez retirer le costume du super-héros, mais vous ne pourrez jamais lui enlever ses super-pouvoirs. Et donc tout est là, en fait. C'est la performance ou le corps physique au sens objet ou vêtements. Et donc là, il recadre en fait le débat qui est sur la performance de Serena Williams.
Alors, Donc on a entendu l'histoire de Kallipatera, hein, donc cette femme qui se déguisait en homme pour pouvoir entraîner son fils. Mais on pourrait aussi parler de Catherine Switzer, cette femme qui s'est déguisée en homme pour courir le marathon de Boston en 1967, puisque c'était interdit aux femmes à l'époque. Donc ces femmes qui ont fait progresser en fait la situation, qui ont permis à d'autres femmes d'accéder à certaines disciplines. Est-ce que en Belgique, par rapport à ce rapport à l'image du modèle féminin, la Belgique est quand même assez conservatrice. Comment est-ce que ça se passe en Belgique? Comment tu as vécu, toi, ce rapport à l'image?
C'est fort conservateur encore à présent. Et la Flandre a beaucoup plus d'avancées que la Wallonie au niveau de du développement social, de l'ouverture d'esprit, tu vois. Donc ça, je l'ai vu très vite, je dois dire, dans ma carrière. Et c'est un peu ça qui m'a attirée, aussi dans leur mode de vie, de travail. Et le fait aussi d'être dominant, ça, j'ai plus pris dans l'exemple hollandais. Moi, je l'ai pris, mais finalement, beaucoup, dans le sport, on doit prendre beaucoup plus d'exemples d'eux. Être dominant, ça ne veut pas dire non plus ignorer les autres. Mais il faut, pour avoir des résultats, il faut savoir ce que tu vaux. Donc, ça, c'est important. Mais voilà, mais pour le respect du sport féminin, on est encore trop conservateur dans certaines régions. Notamment dans les journaux, on parle de l'aspect médiatique, mais les journaux francophones sont beaucoup plus en retard par rapport à une chaîne comme au Sportsa.
Anne-Françoise, vous voulez ajouter quelque chose?
Disons qu'on a parlé de la féminisation, la journée de la jupe, de l'injonction à l'hétérosexualité en disant elles sont trop masculines, elles sont soupçonnées d'homosexualité, et donc ça ne correspond pas au modèle hétéro. Et une dernière chose, c'est comme s'il y avait un espèce de continuum dans ce sexisme. On l'assiste aussi à un procès en virilisation, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère qu'une femme est illégitime pour gagner, pour être compétitive, vous avez parlé tout à l'heure elle se déguisait en homme, justement. Elle devait, en fait, casser le mur pour pouvoir aller chercher une victoire quelque part, au-delà de la barrière des genres, en fait. Hein. On assiste à des procès de virilisation, c'est-à-dire que médicalement, sur base d'un doute visuel, on va soupçonner une femme qui participe à une compétition de femmes qu'elle est en réalité un homme.
Dès les années 60, la Fédération internationale d'athlétisme va mettre en place ce qu'ils ont appelé des contrôles de sexe. Ils ne vont pas se contenter de regarder les organes génitaux. Ils vont procéder à des tests de force pour évaluer leur puissance musculaire. Et là, déjà, tout est dit. Qu'est-ce que doit être une vraie femme pour concourir au sein des compétitions athlétiques? C'est tout simplement une personne moins forte, moins puissante, moins musclée, moins robuste.
En sport, il ne faut pas voir le mal partout. Mais sur les signes extérieurs de féminité, les finalistes du 800 mètres femmes n'étaient pas toutes à égalité. À l'évidence, la jeune sud-africaine Caster Semenya, 19 ans, fait moins fille que les autres. De là dire que c'est un homme, c'est tout le trouble et toute l'ambiguïté de cette délicate affaire.
Très vite, Caster Semenya va défrayer la chronique, mais pas positivement. Comme Usain Bolt, on va émettre des soupçons quant à son corps, jugé trop musclé, trop viril.
Elle n'est peut-être pas une femme, en fait. Et donc, elle n'a peut-être pas le droit de concourir à une compétition de femmes. De nouveau, parce qu'elle est trop performante selon les préjugés des personnes en place. Ouais. Et donc, ces tests sont hyper humiliants pour ces sportives. Et de nouveau, on retombe dans elle n'a pas assez de poitrine, elle est trop musclée, elle a les épaules trop carrées, trop costaudes. Et donc, il faut la contrôler. Pour voir si, sur base d'un doute visuel, hein, donc il faudra donc la contrôler pour voir si elle n'a pas transgressé en fait la barrière des genres et des compétitions.
Il y a aussi certains clubs où je suis passée, on a dit comme ça, c'est fini les cheveux courts, tout le monde doit avoir les cheveux longs. Je dis là t'oublies quoi, tu vois. Et parce que j'étais un caractère fort ou parce que j'avais le niveau et que finalement si tu m'écartes pour mes cheveux courts, ben tu perds le championnat.
Mais qu'est-ce qu'on peut je comprends pas comment on peut justifier ça. Comment on peut te dire tu oublies les cheveux courts?
Ben parce qu'on veut plus de féminité dans la section pour attirer plus de gens pour venir voir nos matchs.
Et c'est une question de longueur de cheveux?
Ah ouais, non, maintenant, il faut que tout le monde ait les longs cheveux. Ben, je dis, ben non. Si c'est ça, je change. Et donc, moi, j'ai toujours gardé mes cheveux courts. Mm-hmm. Tu vois, mais donc, à partir du moment où tu as un certain niveau, tu peux revendiquer des choses comme ça.
Alors que de nombreux hommes portent les cheveux longs dans les footballeurs. Hein.
Ah bah ouais.
Je le signale quand même au passage. Et aucun homme, sur aucun homme, on a pratiqué des tests de masculinité pour vérifier que si ça se trouve...
C'est une femme.
Ouais. Quand c'est fait, je pense que c'est un mauvais pari de la part des fédérations de dire « laisse pousser tes cheveux, du coup on viendra plus voir les matchs de filles ». Je pense que là, ils misent de nouveau sur le physique et non pas sur les performances.
On a parlé de médiatisation des femmes dans le sport, hyperféminisation, test de virilité, mais on pourrait aussi parler du mouvement MeToo, car le sport a lui aussi été touché par ce mouvement. Il est vrai que quand on entend les réflexions qui suivent, il y a de quoi avoir envie de hurler.
Tina, un petit peu comme Monica Bellucci, peut-être un petit peu moins de poitrine, mais bon.
Dans le sport, c'est la foire à tout. On a le droit de dire ce que l'on veut, on a le droit de traiter une femme de ce que l'on veut, blaguer sous le trait de l'humour, de dire tiens, je vais bien me la faire, celle-là, je me la ferai bien.
Qu'est-ce que vous voyez quand vous êtes en face d'une femme? Est-ce que vous voyez ce qu'elle a accompli, ce pour quoi elle se bat? Ou est-ce que nous sommes-nous toutes réduites à une paire de seins?
Rappelez-vous, j'avais fait une petite allusion d'ailleurs à son joli petit postérieur.
Sa morphologie n'a pas tellement changé.
En tous les cas, moi, je connais plus d'un anaconda qui aimerait bien venir l'embêter un petit peu, cette jeune Cléopâtre canadienne.
Les humiliations, le chantage, les insultes, les violences sexistes dans le sport ont aussi été dénoncées en Belgique en 2021 par le mouvement hashtag Balance ton sport, qui a été lancé à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, à l'initiative des judokates Charline Van Snick et Lola Mansour.
Les leggings, ça a dû être inventé par un violeur, un sportif à ses coéquipiers.
Ce genre de remarques, elles n'en veulent plus. Le sexisme dans le sport, ras-le-bol pour Lola Mansour, qui a compilé des dizaines de témoignages dégradants.
Des remarques, judo féminin, masculin, c'est pas le même sport, voilà, venez les femelles, ce sont des choses et ils en rient. C'est une ambiance en fait au quotidien.
Du sexisme de base aux violences sexuelles, les sportifs dénoncent l'insupportable.
Une marque m'a refusé un sponsoring car je ne voulais pas faire de photos sexy avec leurs équipements. Souvent, une fédération va couvrir, va plutôt peut-être protéger l'entraîneur ou le sportif, surtout si ce sont des sportifs qui ramènent beaucoup de médailles. En fait, c'est toujours la médaille qui est au centre.
Un phénomène connu des instances sportives qui préconise l'installation de personnes de confiance dans les fédérations, qui demandent des extraits de casiers judiciaires, qui invitent à se référer à des personnes relais en cas de problème.
L'idée n'est pas de dénoncer, l'idée est de créer un climat de confiance au sein des structures sportives qui permettent finalement, essentiellement aux enfants, jusqu'à 22 ans, de se sentir libre de parler des difficultés qu'ils rencontrent.
Mais il n'est jamais question de sanctions ou d'organismes centralisés comme en Flandre, qui a un numéro de téléphone d'urgence pour les violences en milieu sportif. Lola et Charline Van Snick veulent des actions, mais c'est lent.
C'est sous un soleil de plomb que les Red Flames sont terminés la saison. L'équipe nationale féminine de football a battu 6-1 la Thaïlande. L'occasion de mettre à l'honneur la capitaine de l'équipe belge, Aline Zeller, qui termine sa carrière. Un palmarès extraordinaire pour la Berchetoise, avec notamment 9 titres de championne de Belgique, 3 coupes nationales, 111 sélections avec les Red Flames et un événement particulièrement marquant pour elle.
La participation à l'Euro. J'en garde un super souvenir, notamment avec notre victoire contre la Norvège qui a déjà été championne d'Europe dans le passé. J'arrête sans blessure, j'arrête sur un bon niveau et avec derrière des bons titres et surtout une bonne image. Toujours, ça c'est super important. Et j'ai d'autres projets aussi, donc je pense que j'ai vraiment envie de consacrer beaucoup de temps à ma famille. Je veux aussi entraîner l'équipe des espoirs du PSV.
Une famille très présente pour la soutenir dans les tribunes du stade de Louvain.
Il fallait absolument qu'on vienne voir. Bon, on est très fiers d'elle. Hein. Je pense que c'est un bel exemple pour les autres filles qui veulent faire du foot féminin.
Une belle ambiance pour saluer une joueuse qui a marqué le foot féminin de son empreinte jusqu'à ses coéquipières.
C'est une super personne. J'ai beaucoup appris d'elle.
C'est toujours quelqu'un qui est positif dans la vie, sur le terrain aussi. Et
Ouais, je pense que c'est juste un plaisir de l'avoir eu dans l'équipe. Ouais. J'espère qu'on va encore se voir beaucoup. Je pense qu'elle va être bien comme entraîneur.
Un avenir qui restera axé sur le football pour celle qui en aura fait la passion de sa vie durant plus de 20 ans.
Alors Aline, j'imagine que ça devait être un moment assez émouvant. Aujourd'hui, après une carrière plus que réussie, on peut dire... qu'est-ce qu'on peut dire d'ailleurs ?
Bon, à refaire, je la referai. Voilà, parce que j'ai apporté beaucoup pour le développement du football féminin belge.
La transmission, c'est important pour vous ?
Ah bah oui, je te dis, on parlait tout à l'heure de modèle, voilà. Si je suis pas partie en Allemagne, ou j'ai pas pris d'autres routes, ou j'ai pris la route du football féminin en sachant qu'il allait y avoir des obstacles et des difficultés, c'est que j'avais les épaules pour. Donc tu sais pas déjà ça quand t'as 18 ans, donc tu le sais quand c'est fini. Mais c'est surtout, voilà, j'ai aimé tout ce que j'ai fait et... le fait d'avoir été beaucoup dans ma voiture, ça te permet aussi de méditer. Tu vois, il y a des gens qui méditent sur un tapis avec des bougies ou les bols, etc. Moi, c'était dans ma voiture où c'était mon moment où je m'isole et que j'analysais un peu tout. Mais je pense que j'étais tellement très curieuse un peu de tout c'est important pour moi de me sentir, comment tu veux dire ça, je dois me sentir nécessaire. Et donc pendant ma carrière, j'ai trouvé ça au travers du football. Donc j'étais enseignante pendant ma carrière et j'ai fait différents jobs pour pouvoir puzzler un peu tout. Mais dans chacune des fonctions, je crois que j'ai apporté énormément à tous les gens qui m'ont rencontré.
Et alors tu es responsable d'un département de talent féminin, tu peux nous en parler un petit peu ?
Ouais, donc depuis le mois d'octobre dernier, on a créé le Agency Management. Donc c'est une agence qui soutient les sportifs de haut niveau. Tout âge confondu, donc on a des sportifs qui ont déjà une belle carrière devant eux comme Kevin Miralas, Riyad Mehri, tout sport confondu, et des tout jeunes qui vont être les futures vedettes dans le hockey. J'ai des patineuses, en escalade, donc moi je m'occupe vraiment du département féminin. Le but c'est que moi et Thomas Van de Balk, on n'a jamais pu vivre de notre sport. Lui était capitaine de l'équipe de hockey à Pékin. Et donc, on veut vraiment, comme on en a parlé, essayer d'être un lien entre les entreprises et le sportif de manière à trouver des fonds pour leur permettre de se concentrer vraiment sur leurs entraînements. Mais voilà, la transmission, c'est important. Et avec The Agency, c'est le but, c'est vraiment aider ces jeunes-là à trouver des moyens pour pouvoir performer dans leur passion pendant quelques années.
Un petit point positif, je faisais un petit tour d'horizon. Je suis tombée sur un article qui est paru il y a 2 ans à l'occasion des 75e anniversaire d'Eddy Merckx, et dans le top 10. Donc en fait, ils ont demandé au public d'élire les 50 meilleurs sportifs belges du 21e siècle. Et dans le top 10, les 5 premiers ou premières, c'était des femmes. Donc ça, déjà, je me suis dit, waouh, c'est quand même, il y a du changement. Autre chose vraiment positive, mais on en a parlé au début, donc la Pro League lance son Hall of Fame, hein, et la première légende à y faire son entrée, c'est une femme, et c'est vous, Aline. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que ça fait ?
Là, tout de suite, même le jour de la cérémonie, je m'y attendais pas. Donc, j'étais invitée pour remettre le prix à Tessa de la meilleure joueuse de la compétition de cette année-ci. Et puis, la ministre Valérie dit « Ouais, mais il y a une surprise, donc tu dois rester. » Et puis, alors, ils ont lancé le mini-film, qui était un grand hommage, bien sûr, pour toute ma carrière, sur le terrain, mais aussi par rapport... au développement du football féminin en général. C'est difficile d'en parler là parce que c'est frais. Je pense que dans 10 ans, je pourrais revenir et voir un petit peu quel est le sentiment.
Voici venu le moment des conseils visiter activités en Wallonie de nos invités. Alors, premier conseil, Trottitaille, T-R-O-T-T-I, apostrophe T-A-I-2-L-E-S, hein, ils ont une page Facebook, qui propose des balades guidées en trottinette électrique tout terrain en province du Luxembourg. Et puis, si vous êtes une femme et que vous voulez vous mettre au foot pour le plaisir de jouer, hein, allez jeter un coup d'œil sur le site bbfl.be, la ligue de foot féminin la plus fun du pays. Alors, Anne-Françoise Leleu, un dernier mot.
Moi, je trouve ça merveilleux qu'aujourd'hui, des sportifs prennent la parole et qu'on les mette en lumière. Parce que je crois que c'est la plus belle chose qui puisse se passer pour que ça change. Et je pense au mouvement MeToo, qui a quand même favorisé la libération de la parole. que ce soit dans des choses bien sûr dures, de discrimination, d'abus. Mais après ça et derrière ça, je pense qu'il y a la passion du sport et l'envie de traverser ces épreuves, de casser les murs et de performer ou d'être présente en fait même tout simplement sur le terrain du sport.
Alors Aline, vous étiez notre Lyonne aujourd'hui, un dernier mot.
Merci déjà pour la reconnaissance de participer à l'émission et de pouvoir m'exprimer. En tant que sportive, donc, on dégage un certain enthousiasme et dynamique qu'on veut surtout que ça soit une épidémie autre que celle qu'on a vécue. Et j'ai notamment l'occasion d'aller dans certaines entreprises, simplement pour ça, pour faire une transmission d'énergie et de pouvoir interagir ensemble entre les employés. Avec différents objectifs, puisque des entreprises, ils en ont des autres. Mais voilà, merci. Donc, les reconnaissances et les mérites, ça vient toujours après. Mais c'est toujours chouette de les expliquer. Et c'est pas toujours facile. Les gens pensent que j'ai fait ma carrière comme ça en cliquant des doigts. Mais c'est important de savoir que quand vous voyez des champions qui portent une coupe, vous n'imaginez pas tout le travail qu'il y a derrière. Et surtout, quand on voit que c'est 111 sélections en équipe nationale, il faut toujours faire penser qu'il y a chaque fois une dizaine de jours d'entraînement avant. Donc c'est très difficile de s'imaginer quand on ne l'a pas vécu. Mais en tout cas, on adore en profiter et partager ça.
Merci beaucoup. Merci beaucoup toutes les deux d'avoir participé à ce podcast. Et puis, je vous souhaite une toute bonne journée. Au revoir. En 1830, la jeune Belgique a choisi comme emblème de son indépendance le lion, symbole de courage, de puissance, de force et de liberté, qui était représenté depuis le Moyen-Âge sur tous les blasons des provinces belges. Dans ce podcast, nous ne vous parlerons pas des lions, mais bien des lionnes, ces femmes belges inspirantes qui ont fait par leur talent avancer notre petit royaume d'hier à aujourd'hui.